Alors voilà, donc moi, ce que je voudrais, l'hypothèse que je voudrais approfondir avec vous ce midi, c'est de mettre en opposition ce que je perçois de mes collègues juges et la manière dont ils perçoivent les évolutions actuelles. Finalement, on pourrait mettre en parallèle, voire en opposition, l'acte de juger traditionnel, jugé dans un procès, et l'acte de juger managérial, jugé dans un process. Aujourd'hui, on assiste à une processisation de la justice, c'est-à-dire que la justice n'est plus est moins considérée comme une institution que comme une organisation. C'est en tant qu'organisation qu'elle est considérée par le législateur, par les politiques publiques, par la hiérarchie judiciaire de plus en plus. C'est-à-dire, il y a d'abord, on pourrait dire, une désinstitutionnalisation du regard qui est porté sur la justice. Qu'est-ce que c'est qu'un process? Un process est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. C'est-à-dire que, définition que j'ai pris, et si vous voulez, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comparer la littérature managériale telle qu'on la voit le management, j'allais dire le vrai, celui qui concerne l'entreprise, et de voir ce que ça donnait pour la justice. Donc, on assiste à une tension, voire à un conflit entre la justice comme organisation, banalisée, volontairement banalisée, une institution, une organisation comme une autre, et la justice comme institution. Et je crois, ça sera mon premier point, c'est qu'il faut bien poser le problème, parce que mieux on posera le problème initialement, mieux on pourra répondre aux défis qui sont posés par le management judiciaire, par la justice managériale. Ce que je constate, c'est que quand on aborde l'institution judiciaire, non plus comme institution, mais comme une organisation, ce que suggère le mot process, ce qui compte, c'est le réel, ce qui se passe. C'est une prime accordée à l'effectivité, à l'efficacité sur les finalités de l'institution, qui sont volontiers considérées comme peut-être un peu archaïques, parce que faisant référence à du symbolique, des choses immaîtrisables, des choses qui ne rentrent pas dans les chiffres. Et puis surtout, il y a ce raisonnement paradoxal, bizarre, qu'on va retrouver dans beaucoup d'institutions, c'est en mettant de côté les finalités de l'institution qu'on va améliorer l'institution. C'est comme ça pour la santé, c'est comme ça pour l'université, c'est comme ça partout. Et on va faire comme si l'institution était une entreprise, c'est comme ça qu'on va l'améliorer. Alors, il ne faudrait surtout pas croire, et c'est une erreur à mon avis qu'on rencontre souvent, que le management c'est quelque chose, c'est une amélioration de l'institution. C'est quelque chose, c'est un plus. Non, c'est beaucoup plus qu'un plus, sans mauvais jeu de mots. C'est en réalité une nouvelle finalité raccourcie, définalisée de l'institution. En réalité, on assiste aujourd'hui à un conflit de légitimité entre l'organisation et l'institution. C'est l'hypothèse que je voudrais, creuser. S'il y a un problème, c'est que le management, la justice, quoi, cette approche par les indicateurs, par l'efficacité, les performances, etc., c'est qu'elle bénéficie d'une très puissante légitimité, mais d'une légitimité qui n'est pas formalisée dans le droit. Alors, en quoi consiste-t-elle? Tout d'abord, il y a l'idée que l'entreprise est la forme la plus moderne de coordination des activités humaines, beaucoup plus moderne que l'État, beaucoup plus moderne que les institutions étatiques. C'est une forme de pouvoir beaucoup plus adaptée à notre monde, parce que plus souple, plus réactive, permettant de répondre mieux aux attentes nouvelles de nos contemporains. Alors, ça veut dire que Et j'insiste là-dessus, c'est qu'on assiste quand même à quelque chose de paradoxal. C'est que les institutions sont assimilées, les institutions publiques sont assimilées à des entreprises, sont dépolitisées par le pouvoir politique lui-même. C'est là où ça se corse. C'est-à-dire que on a toujours eu cette fascination de la justice qui va répondre. Mais là, c'est le pouvoir lui-même qui dit l'entreprise, c'est beaucoup plus performant, c'est beaucoup mieux que l'État. Si vous voulez, c'est pas ce qui caractérise une entreprise, c'est précisément c'est qu'elle est désignée par son mode d'organisation et pas par sa finalité. Quand on dit il y a la santé, la justice, l'éducation, la psychiatrie, la recherche, à chaque fois on désigne une finalité. Quand on dit l'entreprise, ça peut être une entreprise agroalimentaire, de services industriels, ça peut être tout, parce qu'on désigne par l'organisation et non plus par la finalité. Alors ça veut dire, et ça aussi c'est important qu'on y réfléchisse, ça veut dire que les institutions se présentent comme un service. L'État, c'est une immense entreprise de service, disait l'ancien ministre de l'économie français, Francis Maire, lui qui venait d'ailleurs patron de la sidérurgie. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer cette forme entrepreneuriale indépendamment du service, donc indépendamment des services qu'elle rend acquis, aux citoyens considérés comme des acteurs rationnels. Il faut les prendre comme un tout. Donc, en d'autres termes, c'est à la fois une redéfinition de l'État, mais c'est aussi une redéfinition de la liberté et une redéfinition du lien politique qui se cache derrière l'assimilation des institutions publiques à des entreprises. Alors, j'insisterai pas dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais finalement, quelle est la légitimité? La légitimité de cette managérialisation de la justice, elle est puissante. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est une légitimité intrinsèque. La force des chiffres, c'est que ils sont auto-évidents. Ça n'a pas besoin de se prouver. La réduction des coûts, la réduction des temps, c'est évident. C'est une légitimité intrinsèque, qui est la force de l'économie, qui était en partie une illusion, mais qui c'est-à-dire que c'est aussi évident que la vie ou que la sécurité. Ben oui, c'est évident, faut défendre la vie. Ben oui, la sécurité, c'est évident, parce que c'est ce qui protège la vie. Bon, y a le même phénomène, c'est-à-dire d'une légitimité intrinsèque. Légitimité intrinsèque qui s'adosse à un nouveau discours de vérité. Je vais très très vite. L'institution judiciaire, elle a le droit en général, quand on prend l'histoire longue, et c'est ce que propose d'ailleurs Michel Foucault, c'est de dire le droit est toujours adossé à des discours de vérité. Alors, ça a d'abord été la théologie qui définissait le bien et le mal et le droit en quelque sorte, puisée dans les catégories théologiques pour leur donner une réalité civique. Ça a été le discours de la souveraineté, le discours du pouvoir. Plus récemment, ça a été le discours disciplinaire avec l'apparition de la médecine au XIXe siècle, de la psychologie, de la psychiatrie, dans lesquelles on disait, mais non, c'est plus les catégories du bien et du mal qui sont justement trop suspectes parce que trop morales, trop liées à Dieu, trop liées à la métaphysique. Non, il faut soigner les gens. Ça a été le modèle thérapeutique, c'était le modèle de la disciplinaire, surveiller, punir, société de contrôle de l'intériorité, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, il y a un nouveau discours de vérité. Ce nouveau discours de vérité, c'est précisément l'économie. Le surdiscours qui évalue tous les autres, ce n'est plus la théologie, c'est l'économie, précisément. Et alors, on pourrait même aller plus loin. Je pense que le management est légitime parce que il bénéficie de cette légitimité spontanée, parce qu'il répond plus adéquatement aux attentes qui sont celles de la modernité tardive, qui est la nôtre, c'est-à-dire l'accélération du temps, l'individualisation et la recherche du bonheur privé, le choix individuel, la rationalisation, la désymbolisation. Bref, tout ça montre que il y a derrière un véritable modèle. Alors c'est d'autant plus difficile d'aborder ce sujet, c'est que une des hypothèses que j'évoque dans mon bouquin, c'est que je crois que ces nouvelles attentes, nous les partageons très très largement. Très largement, même ceux qui s'opposent de manière temporaire, isolément, en manifestant, en s'indignant de ce qu'on tue le service public, mais sont les premiers à aller chercher sur Internet les billets les moins chers, à vérifier ce que va dire leur médecin quand ils ont une consultation, à mettre en concurrence, etc. Bon, et pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple de la France, c'est que le néolibéralisme accomplit les vœux, notamment de l'extrême gauche et de la pensée radicale. Vous vouliez être libre, mais voilà. Vous vouliez vous supprimer d'État, mais voici ce qu'on vous propose. Et on vous propose un modèle qui marche. Je suis frappé de la très grande proximité d'une pensée comme celle de Deleuze en France avec avec le néolibéralisme, mais même celle de Foucault, qui n'assume jamais jusqu'au bout ce qu'il dit. La seule difficulté à laquelle se heurtait cette pensée radicale de la liberté, c'est qu'elle croyait peut-être un peu naïvement qu'une fois qu'on aurait soulagé la vie de la pression des institutions étatiques, c'est la liberté nue, crue, vivante, quasi sauvage qui régnerait. En réalité, ce qu'on voit apparaître, c'est de nouvelles contraintes. Et ces nouvelles contraintes sont précisément celles du management, qui doit être considéré à son plus haut niveau comme une véritable solution de la liberté. Alors, après ces considérations qui vous paraîtront peut-être un peu abstraites, qu'est-ce que ça veut dire une justice qui fonctionne au process ? Eh bien, ça veut dire qu'on est passé d'une justice qui était référée, notamment par la procédure pénale ou la procédure civile, au cœur de métier qui était le jugement d'une affaire, à une autre perspective qui est le traitement des flux. Process, ça veut dire traiter en anglais. Et traiter des flux, ça veut dire qu'il y a un déplacement de la contrainte. Ça, c'est très intéressant. La contrainte sur les professionnels, c'est vrai de tous les professionnels. Elle ne porte pas sur leur savoir spécifique. Elle porte sur l'application de leur savoir. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pression, elle porte moins sur le droit substantiel que sur la procédure, moins sur la procédure que sur les guides de bonne pratique, les guidelines, les conférences de consensus, les barèmes, la quantification, etc., le benchmarking, qui deviennent des choses extrêmement importantes. Et qui sont d'autant plus, d'où un premier malaise. Déjà, les professionnels, ils éprouvent un malaise, c'est qu'on ne leur parle plus des finalités de leur institution. Ça les trouble beaucoup. Puis deuxième malaise, c'est que les émetteurs de normes ne sont pas des émetteurs officiels, ce sont des économistes, ce sont des auditeurs externes, ce sont des think tanks, parfois américains, c'est des assureurs. Par exemple, il y a des assureurs en France, mais je suis persuadé que c'est la même chose en Belgique, on dit, bon ben maintenant on assure les gynécologues obstétriciens s'ils appliquent telle méthode d'accouchement. Alors, s'ils ne l'appliquent pas, c'est très très bien, on respecte profondément le savoir médical, ils ne seront pas assurés. Bon. Mais faites comme vous voulez, c'est vous qui êtes libre, ces vêtements. Et ce sont un groupe d'assureurs, internationaux d'ailleurs, qui définissent les protocoles d'accouchement. Bon. Et qui s'imposent dans tous les hôpitaux français, et probablement européens, et probablement du monde occidental d'ailleurs, et pour des raisons simplement de calcul des risques. Alors, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on assiste à la même chose concernant la justice, où là aussi, on a des nouvelles règles qui portent sur la manière de juger beaucoup plus que sur le fond. Alors, qu'est-ce que produit l'institution judiciaire ? On lui demande désormais de produire des informations homogènes, rapides et prévisibles. Donc, contrainte temporelle. Ce qui est très important, c'est de produire des informations dans un temps accéléré, raccourci. Avec, j'y reviendrai, ce phénomène très important de l'intensification du présent. Il faut statuer en temps réel. Raccourcir les délais, parce que le raccourcissement des délais, c'est une valeur en soi. L'accélération est une valeur en soi. Et c'est très profond ce que nous dit Hartmut Rosa, c'est que la modernité se définit par l'accélération. On veut vivre plusieurs vies en une. Les programmes politiques ont un niveau d'obsolescence extrêmement accéléré. On dort moins, on se déplace plus, on mange plus vite, la sieste disparaît, etc. etc. C'est un phénomène extrêmement, extrêmement profond. Alors, contrainte temporelle pour juger plus vite. Juger plus vite. Et on pourrait se poser la question de dire qu'est-ce qui fait l'unité du temps ? Parce que le temps, ça ne veut rien dire. C'est une unité de mesure qui n'a de sens que rapportée à ce qui est le déterminant du temps. Deuxièmement, il faut juger, rendre des jugements homogènes. Homogènes, ça veut dire qu'il va falloir... tout passe par la quantification. On est passé de... Une affaire, c'est quelque chose, c'est une affaire individuelle. Maintenant, pour reprendre le jeu de mots de Deleuze dans Pour parler, il dit on est passé de l'individuel au individuel. C'est le dossier n'a de valeur en réalité que comme unité d'une série, d'un flux. Et il dit c'est la même chose pour le sujet d'ailleurs. Hein. En criminologie, c'est moins l'histoire personnelle qui compte chez l'individu que l'élément statistique auquel il s'apparente et qui va éclairer son comportement. Est-ce qu'il est dans les 5% des récidivants ? Est-ce qu'il est dans les 15% de machin, etc. Donc, c'est une évolution très profonde qui se voit non seulement par circuit, par mobilité, par accélération, mais aussi par ce phénomène de la série. Le dossier, ce que vous avez fait dans un dossier, n'est dans le fond pas tellement important. Il y a un premier président récemment qui, dans son discours de rentrée, parlait des affaires évacuées. Tout un programme, les affaires évacuées, qui sont sorties du rôle, donc les stocks. Alors, enfin, il faut que cette information soit prévisible. Alors, il faut qu'elle soit prévisible, c'est-à-dire que toutes les peines planchées, les grilles de peine, les éléments à prendre en compte dans le droit de la famille, la priorité dans laquelle il faut prendre en compte en matière de divorce, d'abord, un, est-ce qu'il y a un accord des parents, deux, quelle est la situation de l'enfant, trois, etc. Donc, tout cela est extrêmement guidé. Pourquoi ? Parce qu'il faut rendre une décision prévisible, homogène. Ça, c'est un grand élément de la qualité judiciaire. Mais alors, pourquoi une telle valorisation de la prévisibilité ? Parce que dans le fond, le centre de gravité de l'institution judiciaire est de moins en moins à l'intérieur du jugement et de plus en plus dans l'attitude que les utilisateurs feront du jugement, dans les options qu'ils pourront lever à partir de ce jugement, dans les choix rationnels qu'ils pourront prendre en amont du jugement. C'est pour ça que vous voyez, le couple entreprise-service doit être appliqué à la justice. La justice, c'est on comprend le jugement si on comprend que désormais il est associé aux justiciables qui vont avoir des. Et qui doivent toujours avoir une carte à jouer. Jusque le condamné à une peine la plus longue possible, il doit toujours avoir une carte en main parce que c'est désormais par ce jeu infini qu'on va reconstruire une institution. Je dirais ça dans un instant. Alors, ça veut dire que ça exerce une profonde influence sur le jugement qui passe du moule à la modulation. La structuration du temps par le jugement, c'était une sorte de programmation du temps. Il y avait le pré-sententiel, le sententiel, le post-sententiel. On est dans les mesures d'instruction, on est en jugement, on est en exécution du jugement. Bon, alors, c'était vrai pour le divorce, c'est vrai pour... Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. En France notamment, on voit qu'il y a une très grande confusion entre l'instruction et le préjugement. L'audience, c'est très important, mais dans le fond, on va rejouer tout après, avec l'apparition du GEX, avec les mesures d'exécution. La loi pénitentiaire de 2009 fait que, par exemple, il y a un aménagement automatique. Aménagement automatique, ça veut dire traitement en liberté, des peines de prison inférieures à 2 ans. Alors, on augmente le nombre de peines fermes, par les peines planchées et pour des raisons essentiellement électoralistes et populistes, mais en même temps, on ne les applique pas, en disant on va les aménager ab initio. On aménage une peine qui n'a jamais été exécutée, donc c'est un peu... Bon, voilà. Ça, c'est la déstructuration du temps, c'est la disparition du moule, c'est-à-dire de cette structuration du temps par la justice, dans lequel on a... si vous voulez, le jugement est une succession, c'est une succession un peu hachée de mini-décisions prises au téléphone, prises dans des conditions qui ne sont pas les conditions formelles du jugement. L'idée traditionnelle de la justice, c'est on suspend le temps. L'audience est une suspension du temps. Et d'ailleurs, c'est également une suspension de l'espace. Ce qu'on recrée dans la salle d'audience, symboliquement, c'est toujours très fort, on recrée, et il y a une dimension cosmogonique. Parce que ce qu'on cherchait dans le jugement, c'était ce que Jean Améry appelle l'inversion morale du temps. C'est de redonner à l'histoire une deuxième chance, en jugeant le passé. Voilà. Ça, c'était le mythe traditionnel du procès. Il y a eu des faits, il y a eu une mauvaise rencontre du crime, eh bien, on va rejouer la scène de façon à pouvoir la contrarier et lui donner une issue heureuse, ou une issue réparatrice. Voilà. Bon. Ça, c'est le temps structuré par ce maillon central de l'audience, et c'est bien précisément celui qui disparaît. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette succession de jugements, elle n'est plus référée au passé, elle est référée au présent. C'est-à-dire que ce qu'on demande au juge, c'est... Bon, les faits passés, mais les faits passés ne sont pas tellement importants. Ce qu'on lui demande d'évaluer, c'est la dangerosité. C'est les garanties de représentation. C'est la situation de l'enfant. C'est-à-dire qu'on lui demande de prendre des jugements au regard du présent. Ça, c'est aussi... C'est-à-dire que il n'y a de temps possible que dans le temps. C'est ça ce que j'appelle l'intensification du présent. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de décisions successives, mais qui sont toujours liées au présent. C'est le présent qui a évolué, dans le cadre d'un présent qui dure. Ni d'un passé, ni d'un futur programmé. Parce que de plus en plus, il y a une redéfinition de l'action par le management. Agir, c'est réagir. Agir, c'est réagir à des informations. D'ailleurs, il y a, de ce côté-là, une véritable processisation de la vie. On pourrait dire que ce modèle, c'est l'hypothèse qu'Aimé Deleuze, d'ailleurs, hein, quand il parle la substitution du devenir à l'histoire, il dit il y avait une histoire quand il y avait une structuration politique du temps. À partir du moment où il y a cette succession de réactions opportunistes en fonction d'informations qui changent, on n'est plus dans l'histoire, on est dans le devenir. Voilà. Bon, je crois que c'est très profond. Donc on pourrait appeler un jugement situatif. Le mot est épouvantable, mais c'est celui qu'emploie, comme ça qu'on a traduit l'identité situative d'Armut Rosa. Donc je trouve que c'est un jugement situatif, c'est-à-dire un jugement qui, précisément, le jugement en process, eh bien, c'est précisément une réaction hachée, alvéolaire, dans un processus. Et d'ailleurs, on se rend compte que les jugements du juge sont moins des jugements qui sont pris en visibilité, avec le maximum d'informations, une fois pour toutes. Ce sont des jugements qui me font penser à ces personnes qu'on voit de temps en temps sur la route, qui tiennent un petit bâton et au-dessus duquel il y a un rond qui est rouge d'un côté et vert de l'autre. Il tourne et c'est stop and go, dehors ou dedans. C'est une fonction de gatekeeper. Et on voit que de plus en plus, le JLD, le juge aux affaires familiales, le juge d'instruction, en matière de rétention de sûreté, en matière d'antiterrorisme, dans beaucoup, beaucoup de matières, le juge est celui qui dit vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Binaire. Binaire comme les process. Binaire comme la décision informatique, si on peut parler de décision. C'est-à-dire que il y a une fonction du juge qui va profondément évoluer, et le process, eh bien, c'est précisément pour assurer un système, une chaîne qui va fonctionner toute seule. En français de France, c'est imposé par exemple l'expression la chaîne pénale. Extraordinaire, la chaîne pénale. Alors, expression un peu malheureuse s'agissant du pénal, mais surtout la chaîne pénale, c'est-à-dire que ce qui est d'abord mis en chaîne, c'est le temps. Il faut que toutes les décisions s'emboîtent les unes dans les autres, et puis il faut que le temps, qu'il n'y ait pas de temps mort, que le temps soit entièrement intensifié, compacté, la compactation, je ne sais pas comment dire, du présent. Voilà le temps du process. Alors, je vais aller, je vois que le temps passe, donc c'est le cas de le dire. Il se compacte là aussi pour moi. Alors, c'est une nouvelle manière de gouverner les juges aussi, qui se joue là-dedans, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une recentralisation une recentralisation du pouvoir dans la justice très, très considérable, qui est très manifeste en France par la LOLF. Par exemple, c'est-à-dire que c'est la LOLF qui doit responsabiliser budgétairement les acteurs, en fait, les recentralise. Il y a. Alors,
Non, tu peux développer, c'est
d'accord,
bon, il n'y a
bon.
pas de.
Non, c'est. Bon, alors donc, c'est
Ça va pas
important
vite.
en termes de. Il y a une redéfinition de l'indépendance, évidente. Surtout que ce qui caractérise un process, c'est la nécessité de coopération. Entre plusieurs process, plusieurs autres process. En France, on vient de, là, en l'espace de même pas 6 mois, en 3 mois, les juges ont récupéré le contrôle de la garde à vue, le contrôle des hospitalisations d'office. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir avec le process judiciaire dans le process policier de la garde à vue, dans le process psychiatrique de l'hospitalisation d'office. Et là où ils vont dire, d'ailleurs, à chaque fois, vous pouvez pas. Stop and go. Toujours. C'est binaire. Hein. Donc, c'est pas besoin de faire des tonnes de motivation. Hein. C'est, voilà, il reste hospitalisé, il va dehors. Et en fait, on va retrouver, d'ailleurs, dans la psychiatrie, ce qu'on a dans la prison, c'est que quand on regarde la loi sur la psychiatrie ne parle pas que de l'hospitalisation enfermée, elle parle aussi des traitements obligés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une immixtion du juge dans le process. Des autres. Alors, ça veut dire que par exemple, il y a une mise en transparence très impitoyable de l'activité de chaque juge. On va savoir exactement le temps qu'il a passé, le nombre de dossiers qu'il a fait. Donc, on va faire des ratios temps par dossier. On va le comparer à celui de ses petits camarades. Avec ce que ça veut dire aussi, on l'a vu pour l'exemple de l'obstétricien, comme restriction de la sagesse pratique, de la qualité professionnelle comme étant précisément. Cette capacité d'évaluation, la phronésis du professionnel qui va faire des paris et on espère le plus souvent gagner. Là, non, le process, avant tout, doit être appliqué. C'est la première qualité d'un process, c'est qu'il s'applique et on ne se pose pas de questions. C'est comme ça, c'est le protocole. Dans tel cas, il faut faire ça. C'est la pression par les pairs. Beaucoup plus que par la hiérarchie. Et on constate d'ailleurs qu'il y a un phénomène qui est intéressant, c'est la hiérarchie judiciaire, je ne sais pas comment c'est en Belgique, elle est soumise à la même pression que celle qu'elle impose à la base. Et ça, c'est très très caractéristique de toutes les organisations de travail. C'est-à-dire que la cour d'appel, la cour de cassation ont les mêmes ratios, ont le même benchmarking, ont le même paiement à la performance que les JAF de banlieue. Si vous voulez, ce qui se passe dans le management, c'est qu'il y a une externalisation, une extra-énisation des sources de la contrainte. On n'y peut rien, ce n'est pas nous qui décidons. C'est très différent par rapport à une institution dans laquelle il y a des chefs. Là, ce qui caractérise le management, c'est qu'il n'y a pas de chef. Il y a des indicateurs qui sont des petits chefs muets. Mais les chefs disent, ben, j'y peux rien, les chiffres sont là. Et puis, de toute façon, nous aussi, c'est pareil. Et d'ailleurs, ça contribue à modifier profondément la physionomie de l'institution judiciaire. Alors, il y a eu un événement qui a pas mal marqué à Paris il y a 2, 3 mois, c'est que la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, qui est un poste très important du système éducatif judiciaire, s'est suicidée. Quoi, elle a tenté de se suicider, heureusement, elle n'a pas. Et dans sa lettre, elle disait, j'en peux plus des indicateurs, je supporte plus, je craque et je m'en vais. Mais c'était la chef qui disait ça. C'était pas c'était elle qui devait mettre en place les indicateurs. Alors. Ça pose beaucoup de problèmes. Je m'oriente maintenant un peu vers ma conclusion, vers ma troisième partie, puis la conclusive. Ça pose beaucoup de problèmes sur l'acte de juger. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut réagir à cette évolution? Comment réagir à cette évolution? Et alors, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris tout le temps au départ de mettre. C'est compliqué de réagir parce qu'il y a une vision qui est un peu la vision monde diplomatique, pour faire court. C'est on cherche l'ennemi. Bon. Où est l'ennemi du peuple qui a créé ces indicateurs qui nous persécutent? Donc, la vision persécutée, qui est la plus simple, hein, mais qui fait bon compte. Derrière ça, il y aurait une sorte de complot, de la financiarisation, c'est les gros, etc. Et qui fait bon compte du fond du problème. Le fond du problème, c'est que ça a une véritable rationalité et que nous en bénéficions autant que nous en souffrons, on pourrait dire. En tant que citoyen, nous en souffrons peut-être en tant que professionnel, nous en bénéficions en tant que citoyen. Alors, c'est difficile de répondre parce que une réponse consiste à dire ah ben, il faut faire une justice aristocratique. C'est-à-dire que ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'on va faire de. On fait un service. C'est la first class pour tout le monde, business class pour tout le monde. Alors, ça, c'est le rêve des. C'est-à-dire qu'on va faire une justice sur mesure formidable dans les temps, mais qui sera de grande qualité pour tout le monde. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que il faut d'abord marquer l'impossible retour à une conception aristocratique qui était réservée à une élite, finalement, de la justice. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, on commence à rentrer dans un débat de préélectoral, donc il y a quand même une réflexion le président Sarkozy étant un des papes du néolibéralisme et celui qui a beaucoup joué sur cette modernisation de la France par le management, de toutes les institutions françaises par le management, de l'université, de l'hôpital, etc. Donc on est en plein dedans dans notre débat politique français aujourd'hui. Et la difficulté, c'est de dire, mais oui, mais il y a quelque chose de profondément démocratique dans le management. C'est-à-dire que oui, on a bien entendu que les professionnels, vous n'étiez pas contents. Mais qu'est-ce qu'en pensent les justiciables? Est-ce qu'ils ne sont pas contents, eux, de voir les délais raccourcir? Est-ce qu'ils ne sont pas contents d'être associés à des décisions qui les concernent, qu'on leur demande leur avis? Est-ce que il faut pas désenclaver, libérer le débat sur le management des mains exclusives des professionnels malheureux? Alors, c'est une vraie question. Moi, je pense que trois points, si vous voulez, pour trois pistes de réflexion. Tout d'abord, il y a un véritable défi qui est peut-être spécifiquement français, qui est le défi de refaire institution dans des modalités différentes. C'est-à-dire que l'attitude, ce qui est vraiment constitutif du lien politique français, c'est qu'on attend beaucoup des institutions, d'institutions tutélaires, d'institutions qui pourvoient à beaucoup de choses, non seulement en termes de services, mais en termes d'identité, et notamment qui permettent la révolte. Ça, c'est typiquement français. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu sourire, d'ailleurs, si vous voulez, la manière dont énormément de nos penseurs les plus farouchement hostiles à l'État étaient tous des pensionnés de l'État, qui vivaient à l'école normale supérieure, étaient chauffés par l'école normale, nourris par l'institution, et qui en même temps passaient leur temps. Et donc je pense que c'est ce paradoxe. Il y a quelque chose d'extraordinairement responsabilisant et peut-être un peu vertigineux, et la difficulté, je pense à des travaux comme ceux d'Alain Ehrenberg ou à d'autres, et bien de se dire on ne s'en sortira pas de manière régressive, on s'en sortira en réinventant des institutions qui partent plus de l'intersubjectif, qui soient plus horizontales, qui soient plus réactives et moins traditionnellement symbolique. Deuxièmement, on doit attendre du droit une fois qu'on a opposé, comme j'ai tenté de le faire, l'organisation et l'institution, le process et le procès, il faut voir comment on réintroduit les valeurs du droit dans les préoccupations du management. Et là, il y a un véritable enjeu. Mais dans le fond, cet enjeu est le même. Cet enjeu est le même que, si vous voulez, quand on reprend l'histoire longue du droit. L'histoire longue du droit, c'est que le droit a toujours été, s'est toujours appuyé sur un discours de vérité, lequel discours lui donnait ses références et à l'égard duquel la justice se positionnait. La souveraineté crée le droit limite le pouvoir. Les sciences humaines, la science assigne des missions de thérapeutique, d'orthopédie sociale à la justice. La justice contrôle le contrôle social. Et on pourrait continuer sur ce qui se passe avec le nouveau discours de vérité du management et de l'évaluation. Eh bien, l'économie prétend évaluer toutes les activités humaines. Eh bien, le droit évalue l'évaluateur, évalue l'évaluation. Et je crois que là, il y a d'ailleurs un véritable sujet, parce que finalement, le management a quelque chose d'extraordinairement abstrait. C'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'il se prétend empirique. En fait, il est très artificialiste. Ces grilles sont très, très artificialistes. Et on peut... il y aurait beaucoup à dire de ce côté-là. C'est-à-dire que il faut réintroduire et reprendre à nouveau frais la question essentielle de la forme juridique, des fictions juridiques. Bon. Troisième et dernière piste, je crois que le management, un des problèmes que le droit et la politique peuvent avoir le management, c'est que c'est une régulation sans parole. C'est une régulation sans délibération. C'est une régulation qui impose, qui assène ses vérités à coups d'algorithmes et de camembert sur une feuille, sur un tableau de bord. Bon. Qui ont leur pertinence, mais encore une fois, des régulations sans parole. Il y a un procureur qui faisait son rapport mensuel à la chancellerie, et puis il aimait bien, à chaque fois, tous les mois, quand il transmettait ses chiffres, il faisait un petit commentaire, on a eu tel problème, puis là, à l'aéroport, il y a eu je sais pas quoi, et puis on a eu des vagues de migration, etc. Puis il a reçu une petite note de la chancellerie qui disait, s'il vous plaît, monsieur le procureur, ne faites plus de phrases. Envoyez-nous vos chiffres. Il n'y a que ça qui compte. Bon. Et si vous voulez, cette anecdote est extraordinairement révélatrice de ce qui fait la force, mais peut-être aussi la faillite du management. C'est que, eh bien, il y a de politique que là, il y a de la délibération. Que là où tout le monde reprend la parole, et pas une parole de vérité, mais une parole délibérante, une parole qui confronte des points de vue, une parole qui met en scène le conflit dans sa dimension, structurante positive. Et donc, je ne prône absolument pas une solution régressive aux apories actuelles que rencontre le management judiciaire, mais je pense que c'est par une restitution de la parole aussi bien aux professionnels, à tous les professionnels, qu'aux citoyens eux-mêmes, qu'on retrouvera le chemin de la justice. Merci.